L'actualité cette semaine, en grande partie, était dominée par la guerre en Syrie et le débat suscité par une éventuelle intervention militaire. Dans ce contexte de plus en plus inquiétant et fébrile, le pape a multiplié les appels et les initiatives en faveur de la paix. Une veillée de prière s'est ainsi tenue ce samedi, place Saint-Pierre, en présence du pape François. Plus jamais la guerre, le dialogue est la seule voie pour la paix, avait-il déclaré en convoquant cette journée. Au-delà de cette initiative, le Saint-Siège a-t-il les moyens de peser dans le dossier syrien? Nous avions posé la question à Pierre Morel, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège.
Une diplomatie qui a en propre d'envoyer des signaux forts dans des moments graves. Bon, ça n'est pas une diplomatie dont les résultats sont garantis, aucune ne l'est. Mais simplement, les moyens qu'elle emploie sont des moyens qui font appel à toutes les ressources morales et qui essayent d'orienter une angoisse et une inquiétude réelle dans les opinions pour peser sur l'attitude des dirigeants et encore une fois lancer des signaux d'alerte qui mettent en cause les ressources morales de la personne. Le Saint-Siège fait plus appel à la dimension morale, spirituelle. C'est dans son rôle et ça depuis des siècles.
Le pape qui prie pour la paix en Syrie a également adressé cette semaine un message aux responsables du G20 réunis à Saint-Pétersbourg en Russie, les appelant à abandonner la vaine prétention d'une solution militaire en privilégiant le dialogue et la négociation. Le Saint-Père s'oppose à toute idée de frappe envisagée par les États-Unis et la France, estimant qu'elles aggraveront les massacres et les haines. Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Évry-Corbeil-Essonne, tout en s'inscrivant dans la ligne du Saint-Siège, nous aidait à comprendre la position de la France.
Il faut toujours comprendre deux choses. La première, c'est que la France a été une puissance coloniale liée à la Syrie et qu'elle a un grand intérêt à la Syrie. La deuxième, c'est que la France a été à l'origine des lois internationales ou des règlements internationaux sur l'utilisation des armes chimiques. Donc elle est très sensible à cela. Cela dit, je comprends très fortement et je soutiens tous ceux qui disent que ça n'est pas une solution que de punir. On ne fait pas la guerre pour punir, on fait la guerre pour trouver des solutions politiques.
Et alors que tous les regards sont tournés vers la Syrie, un autre drame est en train de se jouer. En République démocratique du Congo, la population civile est prise en étau dans le conflit qui oppose Kinshasa aux rebelles du M23. Les médiateurs du processus de paix entamé en RDC ont donné 3 jours au gouvernement et aux rebelles du M23 pour reprendre leurs discussions. Un texte allant dans ce sens a été signé cette semaine par les chefs d'État des Grands Lacs lors de leur sommet de Kampala. Mais le gouvernement congolais n'est pas favorable à la reprise des négociations. C'est ce que nous expliquait Thierry Vircoulon, directeur pour l'Afrique centrale de l'International Crisis Group.
D'une part, l'opinion publique congolaise et notamment les gens au Nord Kivu sont complètement contre le M23 et souhaitent qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. D'autre part, et c'est aussi l'avis de l'ensemble de la classe politique congolaise, cette rébellion, mutinerie, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment dire, dure depuis l'année dernière. La population du Nord Kivu est vraiment chauffée à blanc par ce problème et il y a eu ces dernières semaines des manifestations violentes. Donc il y a une pression vraiment très très forte en RDC pour en finir avec le problème du M23.
Au Sénégal, la passation de pouvoir entre l'ancien Premier ministre Abdoul Baye et Aminata Touré, nommé pour le remplacer, a eu lieu mardi dernier. Militante des droits de l'homme, deuxième femme Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré fut notamment experte aux Nations Unies. Dans le gouvernement précédent, elle détenait le portefeuille de la justice. Le journaliste sénégalais Antoine Diouf, directeur de la rédaction de RFM à Dakar, évoquait la figure d'une dame de fer anticorruption très politique.
Aminata Touré est considérée comme étant une dame de fer parce que c'est quelqu'un qui, quand elle engage une bataille, c'est pour aller jusqu'au bout par rapport à la traque des biens dits mal acquis. Ce n'est pas sa première expérience politique. Elle a eu à être la directrice de campagne du candidat Alani Savané en 1993. C'était la plus jeune directrice de campagne au Sénégal. Aminata Touré a été la directrice de cabinet du candidat Macky Sall. Elle a une expérience importante en politique. Elle a un fort caractère qui lui permet tout de même de s'imposer et de bien conduire cette équipe gouvernementale confiée par le président Macky Sall.
Et puisqu'il a beaucoup été question de paix, plus précisément de quête de paix dans cette rétrospective, je vous propose de nous quitter sur une image symbolique, celle des présidents allemands et français, Joachim Gauck et François Hollande, main dans la main avec un survivant du massacre commis le 10 juin 1944 par les nazis à Oradour-sur-Glane. Ils se sont recueillis dans les ruines ruines de l'église de ce village martyr du centre de la France. Aucun chef d'État de la République fédérale n'avait jusqu'à présent rendu hommage aux victimes du massacre. Henri Ménudier, professeur à l'université Paris 3, spécialiste de l'histoire allemande, soulignait toute l'importance de ce geste.
Il y a un changement de génération. Et avant, les générations de chefs de gouvernement, c'est tous des gens qui avaient connu encore directement d'une façon ou d'une autre la Deuxième Guerre mondiale. Tandis que depuis Sarkozy et depuis Merkel, on a affaire à des dirigeants qui sont nés après 1945. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été marqués par la Deuxième Guerre mondiale, alors que par exemple Kohl et Mitterrand ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a aussi un risque d'effacement d'oubli.